deuxième numéro de notre semaine spéciale en amont de la Marche pour les sciences qui aura lieu samedi en France et partout dans le monde. Après avoir examiné hier les racines du mal, en quelque sorte, et les liens entre l'administration Trump et le monde des sciences, nous allons retourner le microscope dans notre direction pour interroger aujourd'hui l'enseignement des sciences en France. Pourquoi tant d'élèves qui sortent d'un bac scientifique ne font pas d'études de sciences? Comment expliquer la primauté faite aux mathématiques comme discipline de sélection? Le doctorat est-il assez valorisé? Et le fossé entre filières universitaires et formation d'ingénieurs a-t-il vocation à être comblé? Faut-il revoir l'éducation scientifique en France? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans ce deuxième numéro de la méthode scientifique spéciale Marche pour les sciences. Et pour percer donc les limites, mais aussi, il faut le dire, discerner les atouts de l'enseignement scientifique en France, qui n'a pas que des défauts, heureusement, qui plus est, à 5 jours de l'élection présidentielle, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui autour de la table de la méthode scientifique Agnès Van Zanten. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'Observatoire sociologique du changement et, il faut le préciser, médaille d'argent du CNRS 2017. Félicitations. Gabriel Zimmermann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet à la Fondation La Main à la Pâte, auteur de nombreux livres et manuels scolaires. On réfléchira avec vous à la façon d'enseigner les sciences, notamment au collège et en primaire. Et Michel Artigue, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite au laboratoire de didactique André Revue à l'Université Paris Diderot et mathématicienne spécialisée en didactique. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission sur notre fil Twitter qui sera abondé de liens, d'articles, d'illustrations, des propos qui seront tenus ici en studio. C'est en vous abonnant donc au compte @laméthodefc. Ceci étant dit, et pour commencer, je vais vous demander à chacune un petit tour d'horizon, alors rapide, hein, en quelques mots, en guise d'introduction, pour savoir selon vous quel est le point fort et le point faible de l'enseignement scientifique au sens large dans vos domaines de spécialité, aux unes et aux autres, de l'école primaire à l'université. C'est une question un peu vaste, mais ça va permettre de circonscrire les termes du débat. Gabriel Zimmermann, pour commencer.
C'est une question difficile. À mon sens, alors on va peut-être commencer par un énorme point fort, c'est peut-être la liberté pédagogique qu'on a en France, qui est indéniable, et sur laquelle on peut se reposer. À l'école primaire, notamment, les enseignants ont la chance aussi de pouvoir enseigner de façon pluridisciplinaire, de façon extrêmement facile. C'est une habitude qui n'est pas encore très implantée dans le collège, mais elle est très fortement encouragée maintenant avec les nouveaux programmes, travailler par projet. On a la chance de pouvoir faire ça en France, d'avoir cette liberté-là. Après, un point peut-être plus faible, et éventuellement, c'est ce que PISA et TIMSS auront montré, c'est qu'on n'a pas...
Ce sont les études internationales sur le niveau des élèves dont on va reparler.
Voilà, exactement. Peut-être que la chose qu'elles ont montré en premier lieu, c'est que les élèves avaient une certaine difficulté à s'affranchir de ce qu'ils ont fait en classe pour aller vers la transposition à leur vie quotidienne et à utiliser ça à bon escient pour la construction de leur propre esprit critique. Donc finalement, ça, c'est peut-être le point à développer. Disons, c'est peut-être pas un point faible, mais c'est un point à développer en France.
Michel Artigue, votre opinion?
Oui, pour ce qui est des mathématiques, je dirais d'abord je souscris à ce que Gabriel a dit. Et pour ce qui est des mathématiques, je dirais qu'on a quand même la chance d'avoir une très bonne école de mathématiques en France et
nombreuses
d'être capable, et avec le fait que effectivement on est capable aujourd'hui encore de former de bons chercheurs en mathématiques. Et on a aussi la chance maintenant d'avoir de plus en plus d'activités. On a des bonnes structures de recherche et de formation à la recherche en mathématiques, mais aussi en didactique des mathématiques. On a de nombreuses activités, on parlait tout à l'heure entre nous de popularisation, de diffusion des mathématiques, elles se développent beaucoup. On a un monde des mathématiques qui est de plus en plus divers et de plus en plus en connexion avec les autres disciplines et la société. Donc il y a beaucoup d'évolution dans ce sens-là. En revanche, on a vraiment toujours un problème à faire comprendre que les mathématiques sont accessibles à tous les élèves et à dépasser les stéréotypes de genre, les stéréotypes comme quoi les mathématiques seraient réservées à une élite, une petite élite, on ne sait pas exactement laquelle, mais enfin... Et puis on a des problèmes d'inégalité sociale de disparités sociales, d'inégalités très fortes et qui se répercutent aussi sur l'enseignement des mathématiques. Mmh. Et donc, on a quand même des difficultés et un problème de formation des enseignants, notamment de l'école élémentaire, qui, en général, ont peu de formation mathématique et scientifique de manière générale. Et bon...
On va revenir sur toutes ces questions que vous avez soulevées, qui vont être les enjeux de notre débat d'aujourd'hui. Votre opinion à vous, Agnès Van Zanten, sur ces points forts.
Je dirais dans la continuité, d'un point de vue plutôt sociologique, effectivement, la situation de la France peut apparaître enviable dans une certaine perspective, parce qu'on arrive à dégager une élite scientifique qui fait l'objet d'une reconnaissance internationale. Mais par ailleurs, effectivement, les résultats des enquêtes internationales, comme des enquêtes nationales, que peut conduire l'ADEP, par exemple, du ministère de l'Éducation en France, montre qu'effectivement, le niveau moyen n'est pas très bon, mais surtout qu'il y a un groupe d'élèves qui décroche très, très fortement dès l'école primaire, et ça va en s'accentuant. Et effectivement, ça montre bien qu'on n'enseigne pas la même culture scientifique dans tous les établissements, et que donc, il y a des inégalités qui sont des inégalités sociales au départ, entre les milieux sociaux, mais qui sont accentuées par le fait qu'on ne propose pas, même si on a des programmes nationaux, on ne propose pas les mêmes enseignements partout et donc pas les mêmes opportunités pour les élèves et qu'au fur et à mesure, effectivement, la filière scientifique en France est devenue une filière généraliste, élitiste et pas du tout une filière de formation des scientifiques et surtout pas des diffusions de la science dans tous les milieux.
Alors, on va reparler dans un instant de ces enquêtes. J'imagine que vous faisiez référence à l'étude TIMSS qui note un décrochement très sévère, notamment sur l'année du CM1 dans les disciplines scientifiques. Peut-être un mot avec vous, Gabriel Zimmermann. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la formation scientifique, dans l'état actuel des programmes, a suffisamment de place dans les premières années d'école ?
Ce qu'il faut voir, c'est aussi le background de la population enseignante française, qui à 80% pour l'école primaire, donc élémentaire et maternelle, vient d'un milieu plutôt littéraire ou des sciences sociales. Donc ce sont des gens qui n'ont pas une acculturation scientifique à la base, et à qui potentiellement, et comme à une grande part de la population française, les sciences font peur. Ce sont des gens qui peuvent avoir pour idée que ce ne sont pas des choses de leur ressort, de leur niveau, alors que paradoxalement, ils ne sont pas géographes et qu'ils n'ont absolument aucune crainte à enseigner la géographie. C'est très paradoxal, mais les sciences ont cette image collée, et certainement les mathématiques de la même façon,
peut-être
encore pire, du savant en blouse blanche face à son tableau qui gratte à la craie. Et c'est une idée qui est assez relayée par la culture populaire, par la culture pop, on pourrait même dire, les séries ou les films ou véhiculent cette image du scientifique. Et il y a quelque chose là à construire, même avant de commencer à enseigner les sciences. Et les élèves arrivent aussi avec cette image dans la tête, donc c'est un travail pour tout le monde. Donc effectivement, il y a des difficultés de ce point de vue-là. Et donc ces enseignants ont besoin d'une formation, disons une formation initiale en sciences, qui est aujourd'hui, qui existe, mais qui est encore assez superficielle. Et ils ont aussi besoin d'une formation continue. Donc bon, nous, à la main à la pâte, on s'attache à leur en donner une, mais il leur faut un maximum d'opportunités possibles de se former, comme un médecin continue à se former tout au long de sa carrière, de se former en sciences tout au long de la carrière.
Oui, Michel Artin, vous pensez qu'il faut renforcer, qu'il est important aujourd'hui de renforcer
la question de la formation des enseignants
pour les enseignants primaires.
Oui, tout à fait, parce que comme l'a dit Gabriel, la plupart ont une formation qui n'est pas une formation scientifique. Ils ont peur ils ont un rapport aux sciences qui n'est pas un rapport positif, et c'est difficile de communiquer un rapport positif quand on n'a pas soi-même un rapport positif aux sciences, et c'est encore plus vrai pour les mathématiques. Donc là, il y a énormément d'efforts, et pas juste dans la formation initiale, il y a aussi dans la formation continue. Et puis aussi, pouvoir s'appuyer dans la formation sur les acquis de la recherche, ce qui n'est pas assez le cas aujourd'hui.
Comment contrebalancer ce déséquilibre initial que vient de signifier, de pointer Gabriel Zimmermann sur le fait qu'effectivement, la plupart des étudiants qui s'inscrivent en ESP sont des étudiants qui viennent de sciences, de filières littéraires ou de sciences humaines. Donc ça veut dire qu'il faut insister sur la formation des mathématiques, il faut casser justement ce préjugé.
Il faut d'une part, bien sûr, travailler sur le recrutement des enseignants et se rendre effectivement le métier attirant pour des jeunes qui sont dans les filières universitaires scientifiques. Mais d'autre part, je pense, on faisait tout à l'heure allusion à la polyvalence dans le primaire, c'est à la fois un avantage, mais également un désavantage, parce que et ce qui est aussi intéressant, c'est de faire intervenir dans la classe, si un enseignant est effectivement plus compétent dans ses discipline, le prendre, faire qu'il prenne en charge les classes, etc. Et donc qu'on réduise un peu la polyvalence parfois des enseignants au profit d'un travail entre maîtres, d'un travail en équipe en fonction des compétences de chacun. Par ailleurs, je voudrais insister sur un autre point qui est que dès l'école primaire en France, on a une telle culture de l'évaluation, de la note, etc. que ça va totalement à l'encontre d'une culture de la découverte, du projet, du travail en équipe. C'est très individualiste dès l'école primaire, même dès les petites classes de l'école primaire. On va noter les élèves individuellement et en insistant sur l'erreur et pas du tout dans l'encouragement que la science, elle s'est fait par tâtonnement et qu'on se trompe.
Alors le droit à l'erreur, on va voir que c'est quelque chose d'important. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, notamment autour de l'enseignement des mathématiques. Mais aujourd'hui, pour autant, Gabriel Zimmermann, dans l'enseignement en école primaire, sur l'enseignement scientifique et technologique, on est plutôt sur de l'expérience, on n'est pas tellement sur du socle théorique. On a essayé de casser un peu, on l'est encore trop.
Alors les programmes encouragent aujourd'hui ce qu'on appelle un enseignement des sciences fondé sur l'investigation, donc qui est une pédagogie active qui vise à mettre l'élève au cœur de l'apprentissage et à se fonder sur son questionnement, sur sa manipulation pourquoi pas, mais surtout sur son questionnement, sur son cheminement interne à lui. L'investigation, ça peut passer par l'expérimentation, mais ça peut aussi passer par de la modélisation, donc qui est une autre forme d'investigation, aussi par l'étude documentaire. Ce sont des choses qui sont souvent faites en routine par les enseignants sans le savoir. Reste que le fait est que 40% des enseignants font des sciences tout court alors qu'elles sont dans les programmes. Ça fait qu'il reste encore 60% des enseignants qui n'ont pas franchi ce pas alors que c'est dans les programmes. Donc là, il y a quelque chose à travailler, forcément.
Michel Artigue, sur les mathématiques à proprement parler, hein, on sait que c'est quelque chose de très clivant dès les premières années dans l'enseignement et dans le rapport que les enfants peuvent avoir à l'école et à l'enseignement. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on a assoupli ce rapport aux mathématiques? On a eu plusieurs mathématiciens ici autour de la table qui déploraient parfois encore un enseignement des mathématiques trop rigide à l'adresse des enfants. Alors certes, maintenant ça fait partie des socles fondamentaux, mais est-ce qu'on a réussi à rendre les bords de ce socle un peu moins coupant?
Mais comme toujours, il y a à la fois des réalisations qui sont extrêmement prometteuses.
Par exemple, donnez-nous un exemple.
Beaucoup, on voit, moi je travaille dans un IREM, un institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, où on travaille beaucoup avec des enseignants de terrain, hein, puisque c'est la philosophie des IREM, et on voit bien des réalisations, des mathématiques qui se font de façon expérimentale, où on encourage la créativité, l'imagination des élèves, tout en cultivant la rigueur du raisonnement. Mais je ne vais pas dire que même si les programmes y encouragent, c'est ce qui se passe dans 90% des classes. Hein. Donc je crois qu'il y a là aussi un effort de formation extrêmement important à mener pour faire que les intentions et les connaissances que l'on a passent dans la réalité des classes.
Gabriel Zimmermann, vous travaillez donc pour la main à la pâte. Vraiment, l'objectif de la main à la pâte, c'est précisément de modifier petit à petit, c'est la source de votre travail, de modifier ce rapport en primaire de l'enseignement avec les mathématiques. Qu'est-ce qui coince encore? Est-ce que c'est vraiment juste ce problème de la formation initiale des enseignants, ou est-ce qu'il y a un attachement à une forme traditionnelle d'enseigner la science qui a du mal à être dépassée? Comment vous l'expliqueriez, vous?
Alors, il y a des réticences à franchir le pas. Et je pense que c'est la même question concernant les élèves et les enseignants, finalement. C'est un problème de confiance. Les élèves peuvent avoir un problème de confiance à rentrer dans les sciences, ça leur semble démesuré. C'est le même problème pour les enseignants. Donc je pense que ce qui est important pour nous, c'est de donner l'envie, de donner le sentiment aux enseignants que c'est possible, qu'ils ont des outils pour s'appuyer, pour franchir le pas. Parce que souvent, c'est le premier pas qui est le plus compliqué à faire.
Et des outils comme, par exemple, donnez-nous des exemples concrets.
Pour moi, il y a trois éléments qui sont absolument cruciaux pour donner confiance. D'abord, se désenclaver, ne pas rester tout seul. Donc chercher toute opportunité de formation continue, parce que là on parle d'enseignants qui sont déjà en poste, donc la formation initiale c'est plus la question. Chercher les opportunités de formation continue, comme celle qu'on a à la main à la pâte, mais il y a d'autres possibilités de le faire. Avoir un référent vers qui se tourner, ça peut être un conseiller pédagogique ou même un collègue un peu plus expérimenté, sortir de son enclavement, de ne pas être tout seul. s'appuyer sur des ressources, je dirais. Ne pas hésiter à avoir recours à du clé en main si on a besoin de ça. Donc, nous, on en produit, mais il y en a de toutes sortes. Ça peut aussi être une ressource d'un collègue. En tout cas, s'appuyer sur quelque chose pour savoir, pour éviter l'angoisse de la page blanche, pour savoir sur quoi s'appuyer comme tremplin. Quitte à un jour produire ses propres ressources, c'est pas la question. Ça peut être une façon de débuter. Et puis, mutualiser ses pratiques. Faire partie d'un groupe d'échange de pratiques. Ne pas rester tout seul. Vraiment...
Agnès Van Zanten, vous confirmez que c'est les bonnes pistes à suivre aujourd'hui pour justement casser, désenclaver un peu cette ancienne dans les
choses. Mon souci, c'est aussi que dans ce modèle-là, on peut rester effectivement dans le modèle d'un certain nombre d'enseignants qui, à la base, vont expérimenter des choses et les faire. Et ce qui serait hautement souhaitable, c'est qu'on ait une administration de l'éducation nationale aux différents échelons qui soit beaucoup plus tournée vers l'accompagnement, déjà pour s'assurer même que les programmes et les instructions sont mises en œuvre. Est-ce qu'on voit qu'ils sont mises en œuvre de façon très très différente et parfois pas mises en œuvre du tout selon les établissements, et généraliser un certain nombre d'initiatives qui s'avèrent vertueuses. Parce que sinon, on est un tout petit peu dans le modèle d'avoir un groupe d'enseignants militants qui développent des pratiques à la base, mais il suffit parfois qu'un enseignant change d'établissement pour que cette dynamique-là se casse. Donc, il faut trouver quelque chose qui constitue des relais à un niveau plus administratif également.
Gabriel Zimmermann, c'est important. Vous avez le sentiment, vous, que l'administration n'accompagne pas tout à fait cette modification que vous souhaitez, pour laquelle vous militez précisément à la main à la pâte?
C'est très inégal. Disons que tout ce qui vient d'en haut va très fortement dans le sens de ce pourquoi nous on milite. Après, au niveau de l'implémentation, je dirais, c'est très très inégal et ça dépend encore une nouvelle fois des gens. Un recteur qui va changer va peut-être mettre en place une dynamique tout autre qui va complètement renverser ce qui était déjà en place. Donc là, ce sont des choses qui sont extrêmement fluctuantes.
Michel Artigue, vous voulez réagir?
Oui, c'est sûr qu'il y a, des initiatives. Par exemple, pour les mathématiques, le ministère a lancé en décembre 2014 un plan, une stratégie mathématique que la Commission française d'éducation mathématique, qui regroupe toutes les institutions, sociétés savantes et associations de professeurs qui s'occupent de l'enseignement et des mathématiques et de leur enseignement en France, à cette initiative. Mais... comme le disait Agnès Van Zanten, ce n'est pas parce qu'il y a effectivement des initiatives d'en haut que le suivi de ces initiatives se fait nécessairement dans de bonnes conditions. Donc on a des principes, mais des principes à la réalité et le suivi dans la durée. Parce qu'une initiative, mais si elle n'est pas poursuivie, pour obtenir des changements durables, il faut vraiment du temps. Et pas quelque chose qui change, qui soit remis en question au bout d'un ou au bout de deux ans. Il faut vraiment de la durée pour arriver à des résultats en éducation.
Ce que vous sous-entendez là, c'est les changements de pouvoir, les changements de ministère et les changements d'orientation tous les 2-3 ans à chaque nouveau ministre de l'Éducation nationale.
C'est vraiment une catastrophe pour l'éducation.
Il y a effectivement cet effet d'une instabilité permanente. Il y a également l'effet que comme effectivement les mandats sont de courte durée, du coup les acteurs sont souvent poussés à montrer très vite des résultats, alors que les enseignants eux-mêmes doivent être mis en position de tâtonnement. Ils expérimentent, ça ne marche pas, mais l'année suivante, ils vont tester différemment.
Le droit à l'erreur pour les enseignants aussi, finalement.
Bien, tout à fait. Alors que là, ils sont encouragés à montrer des résultats, puisqu'il faut faire preuve qu'on a réussi quelque chose. Et ça, effectivement, ça pose en permanence problème à l'initiative et à la capacité à faire évoluer le système à la base.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est déjà quasiment 16h20 et nous parlons aujourd'hui de l'éducation scientifique en France dans le cadre, encore une fois, d'une semaine spéciale consacrée à la marche des sciences et aux nombreuses problématiques qui se posent autour de la place des sciences dans la société. La marche des sciences qui aura lieu, vous le savez, désormais le samedi 22 avril, partout en France, dans plusieurs villes de France, ainsi que dans plusieurs pays dans le monde. J'aimerais qu'on avance un peu, qu'on pose la question aujourd'hui de l'enseignement au collège, donc avant d'arriver au lycée et à la spécialisation. On parlait d'enseignement intégré, c'est aussi le cas au collège hein, avec l'expérimentation EIST, enseignement intégré de sciences et de technologies. Ça veut dire que de plus en plus, on encourage aujourd'hui, dès le départ, dès la primaire, à ne plus séparer les disciplines, à les enseigner autour de grands thèmes fédérateurs comme l'environnement ou l'énergie. Gabriel Zimmermann ?
Il y a plusieurs choses. D'abord, qui est vraiment fondamental, c'est que les enfants ils arrivent au collège avec un bagage qui est celui de leur bagage d'enfant, où l'enfant, lui, il a envie de découvrir le monde. C'est quelque chose de spontané qui est visible chez le bébé. Et le bébé, il va tester son quotidien, son monde avec une approche quasi statistique, d'essai erreur. Mm-hmm. Il va être un scientifique quelque part en herbe. Et
d'expérimentation.
Une personne que j'aime bien, qui s'appelle Alison Gopnik, qui est psychologue, une américaine, dit que en fait, ce sont pas les enfants qui sont des scientifiques en herbe, ce sont les scientifiques qui sont des grands enfants, qui n'ont jamais arrêté de faire ce que les enfants font à l'état naturel. Et finalement, ce qu'on observe avec le collège, avec le passage au collège, c'est bizarrement une tendance à l'atténuation de cette envie de découvrir le monde. Alors, il y a des enjeux sociaux, hormonaux, qui prennent beaucoup de place à ce moment-là, bien sûr. Mais là, le gros enjeu, c'est de continuer à capter l'appétence des enfants et de faire en sorte que cette étincelle d'intérêt pour le monde ne se tarisse pas. Et là, au collège, il faut trouver des solutions. Et avec les adolescents, il y a des stratégies peut-être à mettre en place différentes avec celles des jeunes enfants. Et la démarche de projet, la démarche... Tout ce qui implique des relations sociales ou des choses très concrètes qui sont porteuses de sens, ça sont des pistes à exploiter avec les adolescents.
Est-ce que ces pistes-là donc d'enseignement intégré, hein, où on mélange en général physique, chimie, technologie et SVT, est-ce que ça n'est pas aussi un peu prendre le risque de complètement désolidariser en fait les enseignements et de confier par exemple des enseignements intégrés à des professeurs qui sont moins spécialistes, donc à perdre finalement un peu l'essence de l'enseignement théorique, Agnès Van Zanten ?
Mais c'est vrai qu'en France, on a une très grande culture monodisciplinaire, même si on a inventé aussi des disciplines qui sont bidisciplinaires comme histoire, géo, physique, chimie. Mais effectivement, les enseignants sont très attachés à cette culture disciplinaire. Et il faut dire qu'en France, contrairement à beaucoup de pays, les enseignants du collège sont formés comme les enseignants du lycée. Ils ne sont pas formés pour enseigner en collège. Donc effectivement, ces identités disciplinaires constituent une barrière forte. Et malheureusement, on voit souvent que quand il y a du travail en équipe, ce travail en équipe est souvent plus guidé par des affinités entre enseignants que par le fait qu'il y a un projet véritablement commun autour d'une discipline. Et c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, que ce qui est dramatique en France au collège, c'est la chute de la motivation des élèves. Elle est vraiment radicale. Même les bons élèves perdent énormément de motivation au collège. Ils ne décrochent pas complètement et ils peuvent se rattraper après au lycée. Mais il y a véritablement toute une pédagogie à inventer. Et effectivement, le socle commun des connaissances, toutes les initiatives d'intégration, quand elles s'accompagnent d'un travail collectif, d'un travail en commun, ne peuvent que favoriser cela. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles et que, effectivement, pour les enseignants, c'est effectivement une perte de repères. Et là, à nouveau, il n'y a pas d'accompagnement de l'institution. Il ne suffit pas de dire pour que ça se fasse.
Je voudrais juste prendre un exemple. J'ai participé à une formation de formateurs sur l'Académie de Créteil qui vise à développer et à étendre progressivement, c'est une très bonne perspective, des travaux interdisciplinaires et une formation à des travaux interdisciplinaires entre des professeurs de mathématiques, de sciences physiques, de biologie et de technologie, de SVT et de technologie. Mais ce qui est important, c'est que quand on pense l'extension, on donne aussi aux enseignants le moyen de travailler ensemble. C'est-à-dire que dans leurs emplois du temps, ça soit permis, ça soit possible matériellement de travailler ensemble et que ce travail ensemble soit accompagné. Parce que la formation de chaque enseignant est une formation essentiellement disciplinaire. Si on veut communiquer avec une autre discipline, déjà, il faut comprendre le langage d'une autre discipline. Même pour une méthode scientifique, par exemple, l'idée qu'est-ce que c'est une hypothèse, qu'est-ce que c'est un modèle, qu'est-ce que c'est une expérience, ça n'a pas le même sens pour tous.
Vous m'apportez ça sur un plateau, Michel Artigue et Gabriel Zimmermann. Est-ce qu'il est important, puisqu'on va dans le sens d'une intégration, d'une transdisciplinarité, d'une déthéorisation en quelque sorte, est-ce qu'il est important, est-ce que la formation à l'esprit critique, à l'esprit analytique, à la méthode scientifique est suffisante? Est-ce qu'elle est incluse dans ces programmes? Est-ce qu'elle doit être implémentée de manière un peu plus forte, un peu plus poussée, à votre avis?
Alors, elle a existé de façon diffuse jusque-là, puisqu'on découvre les méthodes de la science en faisant des sciences jusqu'à présent. Peut-être ce qui manque et qui est encore à travailler maintenant et qu'il faut qu'on travaille, c'est quelque chose de plus explicite sur les méthodes de la science. Être plus explicite avec les élèves sur comment on fait des sciences. Qu'est-ce que ça veut dire faire des sciences? Quels sont les points communs entre toutes les sciences? Est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent, des méthodes, des outils? vie, des façons de penser qui sont présentes en science et peut-être qu'on les utilise finalement au quotidien pour se faire un avis sur le monde.
Mais c'est ça, vous qui déployez justement qu'il y ait un manque de translation des apprentissages théoriques à la vie pratique, est-ce que précisément, et puis aujourd'hui peut-être plus qu'à tout autre moment, justement l'utilisation de ces méthodes déductives, analytiques, logiques, de méthodes scientifiques, elles ne sont pas suffisamment fortes, suffisamment enseignées, suffisamment transmises justement parce que c'est précisément un pont, Agnès Van Zanten, vers la vie quotidienne.
Je pense qu'en France, il y a effectivement quand même une tendance forte à viser le développement de l'esprit critique, pas qu'on réussit toujours, mais c'est un esprit critique que je trouve qui est encore très imprégné d'un modèle philosophique, beaucoup plus que d'un modèle des sciences. Les enseignants eux-mêmes ne sont pas du tout formés à la recherche, donc eux-mêmes, ils n'ont pas un esprit d'ouverture à la recherche. Donc, ils cherchent à former l'esprit critique dans le cadre d'une culture encyclopédique dans cet héritage-là, mais pas dans le cadre d'une démarche scientifique peut-être plus modeste et sans doute plus inductive, plus partant du connu des élèves pour remonter vers des choses plus complexes. Là, c'est une démarche qui est quand même assez étrangère à beaucoup d'enseignants qui ont peut-être été formés en partie à la recherche dans leur domaine, mais ne sont pas du tout formés à la recherche comme démarche pédagogique, ce qui est tout à fait autre chose.
Gabriel Zimmermann ?
Tout à fait, c'est exactement ça. Et du coup, bon, c'est un peu mis au défi, à la main à la patte depuis 2 ans, de développer une ressource pour les enseignants qui permettent justement d'aller sur ce terrain-là avec des éléments que les enseignants ont parfois déjà en main, mais sans le savoir, avec des questions très centrées sur la science, à savoir mais qu'est-ce que ça veut dire observer, quelles sont les méthodes pour observer bien, est-ce qu'on peut se doter d'outils pour observer mieux, de façon pertinente, qu'est-ce que ça veut dire qu'expliquer un phénomène, qu'est-ce que c'est qu'une cause, qu'est-ce que c'est qu'un effet, comment on évalue une source, si on n'a pas les moyens d'investiguer soi-même une question, il faut s'en remettre à quelqu'un qui a déjà fait le travail, comment on sait si une source est bonne ou pas, quels sont les critères pour le savoir. Donc là, on a construit un module qui va sortir au mois de septembre, qui permet d'investiguer ces questions depuis le CP, jusque là, en l'occurrence, la fin du cycle 3, donc la première année du collège, la 6e, et il sortira ensuite un complément jusqu'à la fin du collège. Donc avec des activités qui sont très simples et qui parfois sont même des activités qui ne sont pas de science mais de lexique, on va aller creuser cette question de l'esprit critique, de la science et comment elle nous donne des outils pour notre quotidien pour pouvoir ensuite aller explorer les questions sur le monde qui nous entoure.
J'aimerais qu'on avance parce que l'heure file à une vitesse incroyable parce que cette discussion est absolument captivante, néanmoins. J'aimerais qu'on avance un peu dans le cursus avec cette citation qui me semble poser le problème de la suite de notre discussion. C'est une citation de Sylvie Bonnet qui est la présidente de l'Union des professeurs de classe préparatoire et qui dit « L'enseignement supérieur souffre d'un malentendu. Le bac S n'est pas perçu par les élèves et leurs familles comme un bac scientifique mais comme un bac généraliste, celui qui ouvre le plus de portes. » Alors, Michel Artigue, quel est ce problème?
Mais c'est vrai.
Un problème ontologique, ontologique particulièrement en France, qui fait des mathématiques non pas une porte ouverte vers l'enseignement scientifique.
Du bac S. Hein, ne mélangeons pas mathématiques et bac S. Parce que le bac S, effectivement, c'est un bac généraliste. Il accueille à peu près 50% des élèves de la série générale. Et dans ces élèves de la série du bac S, il y en a une petite minorité qui prend la spécialité S, donc il va faire plus de maths que les autres. Et si vous regardez les coefficients du bac, il y a 40 points, à peu près 40 coefficients. Vous en avez 21 pour les sciences, au plus. 21 pour les sciences. Donc ça veut dire que 20, ce sont pour des disciplines hors scientifiques. Donc qualifier le bac S de bac de scientifique et a fortiori de bac de mathématiques, je crois que là, il y a une grosse erreur. Dans la culture, et tout le monde dans la société le véhicule, la filière un peu considérée d'excellence qui ouvre toutes les portes. Et tout le monde dans la société joue ce jeu-là. Et pour casser effectivement cette image, il faut que tout le monde s'y mette.
Mais alors, parce que c'est vrai pour le bac S, mais ça va être vrai ensuite pour les classes prépa. Par exemple, quand on veut faire une grande école de commerce, on va faire des maths de manière, vraiment dure, enfin soutenue en tout cas. Alors que, a priori, même s'il faut évidemment savoir compter intelligemment quand on veut faire de l'économie, personne n'en doute.
Il faut faire de bonnes statistiques aussi.
Néanmoins, on a bien conscience aujourd'hui que les mathématiques sont une sorte de sas vers l'excellence, même au sein quand même des bacs S. Hein. On voit bien la différenciation qu'il y a entre les lycéens qui choisissent l'aspect maths, ceux qui choisissent l'aspect physique-chimie, qui sont en général un peu moins bons, et ceux qui choisissent l'aspect bio, qui sont en général, je dis bien en général, un peu moins bons.
Et puis vous avez maintenant la spécialité ISN sur les sciences informatiques et sciences du numérique. Donc, il y a quand même une certaine diversité.
Agnès Van Zanten, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, ou est-ce que finalement on peut tout à fait se contenter de cet état de fait, que les mathématiques soient à ce point-là un sas, encore une fois, vers les filières d'excellence, alors même qu'elles ouvrent très peu vers des débouchés universitaires scientifiques.
Bon, avant de revenir sur la question en France, qui effectivement est tout à fait préoccupante, je voudrais dire que c'est quand même un mouvement assez général qu'on constate dans un certain nombre de pays, que le basculement d'une culture humaniste vers une culture scientifique a fait que dans un certain nombre de pays, j'ai lu récemment un travail sur la Suède qui portait exactement sur cette question, le fait que la filière scientifique est devenue une filière généraliste, élitiste, qui mène à un certain nombre d'établissements. Donc effectivement, il y a là une question de voir comment les élites arrivent à se reproduire à travers un changement de modèle, etc. Donc, c'est des tendances très lourdes.
Et avec un paradoxe total, qui est qu'il n'y a quasiment aucun scientifique aujourd'hui dans les hauts postes de responsabilité de l'État, enfin, malgré tout.
C'est-à-dire que c'est
à la fois un outil de sélection et en même temps...
On tombe à la fois sur ce qui se passe dans l'enseignement secondaire et effectivement, comme on vient de l'évoquer, dans l'enseignement supérieur, avec le fait qu'effectivement, les élèves qui ont un très bon niveau en mathématiques et dans les matières scientifiques vont être orientés majoritairement en classe préparatoire, à la fois parce qu'ils jugent, à juste titre d'ailleurs, que les conditions d'enseignement sont bien meilleures qu'est-ce qu'elles sont dans les universités aujourd'hui. Je parle bien des conditions d'enseignement, pas des qualités des enseignants, puisqu'effectivement on a en France des très bons enseignants universitaires. C'est les conditions d'enseignement qui posent problème. L'idée de se laisser du temps pour choisir, alors qu'effectivement en France, à l'université, on est assez spécialisé dès le départ, et le fait que l'on sait que l'on aura une place avec un concours et que l'on aura probablement un débouché professionnel à l'issue de ces études. Donc effectivement, on a malheureusement très peu des bons élèves qui s'orientent vers l'enseignement universitaire, en tout cas au premier cycle.
Oui, parce qu'en master, on les récupère.
Après, effectivement, il y a des passerelles qu'il faudrait développer beaucoup plus avec effectivement l'enseignement au master à l'université.
Mais alors, quelle solution, je vous repose la question, est-ce qu'il faut se contenter et accepter maintenant que les mathématiques sont devenues l'outil de sélection, alors qu'à d'autres époques, rappelons-le, ça pouvait être les langues anciennes, le latin, le grec, les humanités étaient des disciplines de sélection vers des filières d'excellence, ce qui n'est plus le cas. Donc est-ce qu'il faut se contenter de cet état de fait, même si ça met en dehors des élèves brillants qui n'ont pas juste, comme on dit, la bosse des maths?
Non,
on ne dit plus la bosse des maths. Allez, excusez-moi. Je suis d'une autre époque, moi aussi, Michel Artigue.
Mais il ne faut pas, justement, renforcer ces stéréotypes qui sont complètement erronés et qui nous plombent depuis des générations et qui gênent aussi nos enfants et à penser autrement, qui les empêchent de penser autrement. Et puis vous dites toujours les mathématiques. Si vous disiez la filière ES, ça ne serait pas tout à fait la même chose. Parce que vous pouvez avoir un bac S avec une note exécrable en mathématiques. Oui,
je vous le confirme. Je ne rentrerai pas plus loin dans les détails, mais je vous le confirme. Gabriel Zimmermann.
Je suis d'accord avec Michel sur le fait qu'il y a un effet très pervers de ce système-là, et peut-être que ça joue dans cette démotivation qu'on sent au niveau du collège. Il y a vraiment un moment charnière où on sent le passage de ces enfants qui sont très intéressés, très motivés par les sciences, à une démotivation assez grande. Et ça correspond aussi à un moment où il y a une certaine prise de conscience du fait que ces disciplines-là vont in fine servir à sélectionner. Il y a un clair phénomène qui se produit sur le scepticisme finalement de ces élèves qui vont avoir conscience de cette sélection.
Méthode scientifique, Nicolas Martin.
Now listen to me, children, and take some good advice. I'm going to tell you something now, don't make me say it twice. You can put away your lessons, throw away your books, 'cause I'm going to tell you what cooks. Venus was a woman who had a lot of charms, but she got so much hug and she wore out both her arms. But you don't learn that in school. You don't learn that in school. There ain't no doubt about it. You don't learn that in school.
Napoleon was a soldier, the smartest ever seen. But he learned his maneuvers alone with Josephine. But you don't learn that in school. You don't learn that in school. There ain't no doubt about it. You don't learn that in school. Robin Hood was famous, but one thing you should know, he only robbed the rich folks, cause the poor folks had no dough. But you don't learn that in school. You don't learn that in school. There ain't no doubt about it. You don't learn that in school.
You don't learn that in school. Vous n'apprenez pas ça à l'école. C'est Nat King Cole sur France Culture dans la méthode scientifique. Puisque nous parlons tout au long de cette heure de l'enseignement scientifique en France, nous avons parlé de la primaire, du collège. Nous étions en train de parler du lycée avec un débat féroce hors antenne sur l'enseignement des mathématiques. Mais disons-en un mot rapidement avant de passer à l'enseignement supérieur avec vous, Michel Artig. C'est vrai, finalement, est-ce que il n'y a pas d'autres des grands mathématiciens, nous le disait, je pense à Claire Voisin, nous le disait ici, il y a quelque chose aujourd'hui dans l'enseignement des mathématiques qui perd quelque chose de ce que j'appelais tout à l'heure l'abstraction mathématique, c'est-à-dire d'une certaine forme de droit à l'erreur, de déviation, voire de poésie des mathématiques qui est sanctionnée en fait très vite quand on l'apprend. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à assouplir aujourd'hui dans l'enseignement des mathématiques en France?
Il y a sans doute quelque chose à assouplir, mais je vous dirais que quand vous dites... J'avais un rapport difficile, l'abstraction mathématique m'était inaccessible. Je vous dirais, votre rencontre avec les mathématiques a fait que l'abstraction mathématique vous a semblé inaccessible. Et pour moi, c'est vraiment un scandale, je dirais, que des jeunes puissent penser que l'abstraction mathématique leur est inaccessible, alors que tout dans la recherche nous montre que l'abstraction mathématique, jusqu'à un certain niveau, bien sûr, est accessible à quasiment tous les élèves. Et que vraiment...
Donc, d'où la question de l'assouplissement de l'enseignement.
Oui, la question. Et puis aussi du fait qu'une formation se nourrit de la recherche. Dans les autres domaines, ça paraît complètement normal que la formation se nourrisse de la recherche. Pour l'enseignement aussi, la formation doit se nourrir de la recherche.
Mais Agnès Van Anden, pour rebondir là-dessus, et vraiment en quelques mots, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a encore une fois toujours ce couperet mathématique qui là aussi peut-être, pourrait être émoussé pour des étudiants, pour des lycéens qui veulent poursuivre une carrière en sciences et qui se disent qu'aucune carrière en sciences n'est possible sans être brillant en mathématiques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Non mais je vous parle d'un lieu commun, ça n'est pas mon opinion. Et ça n'est pas la vérité. Mais néanmoins, c'est un ressenti qui est, à mon avis, encore relativement réel. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à faire pour pouvoir un peu pluridisciplinariser ou en tout cas remettre à niveau égal les différentes disciplines scientifiques au niveau du lycée ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas par hasard que dans cette émission, on a tellement parlé des mathématiques, alors qu'on s'attendrait, quand on parle de la culture scientifique, à parler de toutes les autres disciplines qui sont également importantes. Mais c'est vrai qu'en France, on a effectivement généré, pour tout un ensemble de raisons, cette place des mathématiques comme occupant une place reine centrale. Et comme le système français, et notamment au lycée, de façon très, très claire, est totalement tourné vers la sélection des meilleurs, effectivement, les mathématiques deviennent les couperets. Et pour les élèves, effectivement, ça engendre un effet où les élèves qui se sentent déjà un peu en difficulté se sentent d'autant plus en difficulté qu'ils savent qu'ils seront jugés par rapport à ce type de connaissances-là. Mais effectivement, on a fait quelques pas pour essayer de casser un tout petit peu les écarts entre les filières au lycée avec le nouveau programme du lycée, mais c'est resté très en deçà de ce qu'on peut faire effectivement pour qu'il y ait beaucoup plus de mouvement entre les filières, beaucoup plus de possibilités de tester si on aime telle ou telle matière, pouvoir prendre telle autre option, etc. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là.
Et avec une autre conséquence, hein, puisqu'on va passer, on va poursuivre notre cheminement au cours des cursus d'éducation, avec une autre conséquence, donc celle de la désaffection pour les inscriptions à l'université en filière scientifique. Voici un chiffre qui me semble en lui-même relativement éloquent. 1995, 63 620 inscriptions en filière scientifique. 2011, 33 154. Même si je suis pas bon en mathématiques, on voit que c'est à peu près une division par deux. Michel Artigue, est-ce que déjà c'est un constat qui se poursuit, et ensuite quelles sont les solutions pour réinvestir, pour réutiliser ces étudiants brillants dans les cursus de lycée et dans les bacs scientifiques pour les réinjecter dans les filières scientifiques universitaires?
Ça, c'est une vraie question et une vaste question, et une question difficile, parce qu'on voit bien que chaque fois que l'on veut changer un peu ce système, de très gros lobbies se mettre en place, et qu'il est très difficile de lutter contre les pouvoirs en place.
Des lobbies de quel type ?
Des lobbies de ceux qui sont passés par ces systèmes et qui effectivement veulent les préserver. Et en plus, pour l'instant, effectivement, on a ce système dual des grandes écoles. Dans d'autres pays, vous avez toutes les universités ne sont pas à la même enseigne non plus, donc vous avez tous les systèmes sont capables de créer leurs élites et de trouver des institutions, des formes institutionnelles pour créer leurs élites. Nous avons ce système effectivement des grandes écoles qui est hérité de longue date et qui se perpétue très fort. Nous avons quand même le fait qu'à l'université, ça piège l'université par rapport aux premières années, aux années de licence, et fait que l'enseignement à ces niveaux-là, effectivement, il y a assez peu d'étudiants et d'étudiants très motivés et très brillants. Mais trouver une solution, ce n'est pas, c'est difficile de dire, on va casser le système tel qu'il existe, on va le remplacer ou on va supprimer le système des grandes écoles et des classes préparatoires, le remplacer par juste un système universitaire. Il faut réfléchir beaucoup avant de casser les choses et de les remplacer. Moi, je n'ai pas de solution immédiate par rapport à cette question, je dirais.
Et on en revient aux politiques à relativement court terme qui empêchent une sorte de pensée globale qui remettrait en cause ce système à trois vitesses. Hein, parce que vous parlez des grandes écoles et de l'université, il faut rajouter les écoles d'ingénieurs qui constituent le système d'éducation vers la science et
la technique
en France.
Et en même temps, il faut se dire qu'au niveau des masters, les formations universitaires sont extrêmement efficaces. Et qu'il y a beaucoup de formations de master qui existent et qu'elles ont un grand succès et qu'elles casent excessivement très très bien leurs étudiants.
Gabriel Zimmermann, vous voulez réagir ?
L'anxiété des étudiants, elle a beaucoup lieu en licence. Et ça, c'est quelque chose à l'échelle d'une vie de pseudo-enseignant. Voilà, moi j'ai donné des TP et TD. À l'échelle de ma vie d'enseignant de TP et TD, j'ai vu apparaître de l'anxiété chez les étudiants de première année de licence qui me posaient des questions qui ne me seraient même pas passées au travers de la tête à l'époque où j'étais dans leur situation.
Par exemple,
au premier trimestre de l'année, ils me demandaient des sites internet pour regarder ce qu'il y avait comme emploi dans leur branche, de leur dresser une liste, à leur donner en PDF pour pouvoir déjà aller sonder un petit peu les sites internet d'offres d'emploi pour voir à quoi ils pourraient prétendre plus tard. C'était le reflet d'une anxiété terrible sur leur devenir, et ils étaient en premier trimestre de licence.
On va accélérer, parce que le temps nous presse un peu, on va accélérer un peu. J'aimerais vous faire écouter en fait un témoignage que nous avons recueilli pour parler pour le moment de la filière universitaire et de la place du doctorat en France, qui n'est pas une place simple, loin s'en faut. Écoutez ce témoignage d'une voix qui est connue des auditeurs de la méthode scientifique, puisqu'il s'agit de celle de Sébastien Carassou, alias le Sense of Wonder, qui participe régulièrement à nos tables d'actualité scientifique du vendredi. Sébastien Carassou est donc en troisième année de doctorat à l'Institut d'astrophysique de Paris. Écoutez-le.
Je pense qu'il y a un problème fondamental dans le monde de la recherche aujourd'hui, et ce problème, c'est le problème de la précarité. C'est un problème qui est essentiellement systémique, hein, parce qu'il est lié en grande partie au financement public de la recherche, au mode de financement public, qui fonctionne essentiellement par projet. Et donc ces projets, elles favorisent la création de postes à des échelles de temps qui sont assez courtes, et donc ça favorise la précarité.
Ce problème de précarité touche à la fois les sciences humaines et les sciences appliquées, donc c'est vraiment en général.
Absolument, et d'ailleurs je me sens plutôt privilégié par rapport aux chercheurs en sciences humaines, enfin, en tout cas aux doctorants en sciences humaines, qui n'ont même pas accès à des bourses doctorales pour pouvoir vivre, et donc ils doivent enchaîner des petits boulots pour survivre en parallèle à leur thèse. Mais donc ça c'est pour le doctorat. Mais en ce qui concerne l'après-thèse, un jeune chercheur comme moi qui cherche un poste fixe, par exemple, dans le monde de la recherche, eh ben il doit passer par une série de contrats postdoctoraux. C'est des CDD de 3-4 ans qu'on nous encourage à faire à l'étranger, et donc pour montrer qu'on est flexible, qu'on sait s'adapter. Et donc pendant toutes ces années de nomade académique, là, de saut de puce entre différents pays, le jeune chercheur, il n'a aucune idée de ce qu'il va devenir. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, avoir un doctorat, ça ne met pas à l'abri de la précarité et du chômage. Il y a d'ailleurs un rapport de la Cour des comptes l'année dernière qui a montré que plus d'un docteur sur 10 est au chômage 3 ans après avoir eu son diplôme. Donc il y en a d'autres qui se reconvertissent dans le privé, hein, c'est le cas aujourd'hui pour la majorité des docteurs en France, et ils le font un peu avec difficulté d'ailleurs, parce qu'un doctorat, c'est pas forcément bien reconnu en entreprise, c'est deux mondes qui se parlent pas vraiment. Et donc pour en revenir à la recherche, donc on a un nombre de postes fixes qui stagne, voire qui diminue, et un nombre de doctorants qui augmente. Ce qui fait qu'au final, il n'y a qu'un docteur sur 6 qui finit par trouver un poste permanent dans la recherche. Donc c'est assez affligeant, mais ça entretient un climat de compétition. Cette situation-là de précarité permanente, de stress permanent, d'angoisse permanente pour publier au maximum d'articles dans des revues à comité de lecture, elle va, histoire d'être toujours dans la course, ça a un coût psychologique.
Publisher pays riche.
Exactement, exactement. Donc je me pose la question, est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un système qui favorise la création de chercheurs dépressifs qui se tirent dans les pattes un petit peu les uns les autres? Et donc ça implique des sacrifices que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire, en tout cas que moi personnellement je ne suis pas prêt à faire. Du coup, après quelques mois de réflexion, j'ai décidé de sortir du monde de la recherche après ma thèse. Et je sais que si la situation était différente, j'aurais peut-être fait un autre choix. Parce que c'est un monde vraiment passionnant, la recherche. On rencontre des gens passionnants et passionnés. Mais je ne veux pas donner l'impression que c'est un problème qui touche que les chercheurs. On ne fait pas de la science pour les scientifiques, on fait de la science pour la société. Et donc si on ne permet pas aux chercheurs de travailler dans un environnement stable et dans de bonnes conditions, c'est la société qui en pâtit. Et donc c'est important pour moi que ces questions elles fassent partie du débat public, et c'est en partie pour ça que moi je serai dans la rue le 22 avril.
Voilà Sébastien Carassou qui défilera pour la marche des sciences comme toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Vous pouvez retrouver sur sa page YouTube le Sense of Wonder, et que vous retrouverez très bientôt autour de la table de La Méthode Scientifique. Les propos étaient recueillis par Céline Lezen. Je me retrouve vers vous, Gabriel Zimmermann, parce que vous venez de me dire je suis Sébastien Carassou.
Nous sommes tous
Sébastien Carassou. Voilà, un t-shirt, une idée de t-shirt ou de bannière pour samedi.
Oui, c'est exactement la situation dans laquelle tout jeune doctorant se retrouve, et avec une conscience de ce qui va lui arriver une fois son doctorat obtenu. Moi, j'ai senti assez vite que j'avais pas les dents qui rayaient assez le plancher pour m'inclure dans cette compétition et dans cette course à la publication, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, c'est ça qui existe. Et un peu comme lui, moi, j'ai décidé de continuer à servir finalement la science. Je sers la science et c'est ma joie, je la sers toujours. Mmh. D'une façon qui sert aussi publiquement la science. J'ai mis la science que je possédais au service de l'éducation.
Via la Fondation La Malapate.
J'ai eu cette opportunité-là. Voilà. Bon, il se trouve que je fais partie aussi de ces docteurs qui n'ont jamais connu un mois de chômage, mais c'est loin d'être le cas général. Et voilà. Donc, je suis très à ma place maintenant. Mais j'ai conscience qu'il y a eu un grand coup de chance là-dedans, et que ce n'est absolument pas le cas général des jeunes docteurs qui sortent.
Agnès Van Dantaine, le portrait qui est décrit de la fin d'études, du doctorat, du début de la vie de chercheur est quand même très cruel.
Oui, tout à fait. C'est un portrait qui m'est tout à fait familier, parce qu'on le retrouve dans toutes les institutions, y compris dans des institutions d'excellence comme Sciences Po, parce qu'on a aussi des doctorants qui n'arrivent pas effectivement à s'écaser tout de suite dans le marché du travail. C'est vrai que dans le secteur public, on a beaucoup de mal en France à offrir des contrats de longue durée, donc on offre effectivement des petits contrats qui sont pas très intéressants.
Les fameux post-docs.
Même des mini post-docs, parce qu'on n'offre même pas souvent un post-doc de 2-3 ans, mais on offre quelques mois d'un CDD pour participer à un projet. Et puis dans le secteur privé, ce qui est très dramatique en France, c'est qu'il ne s'agit pas d'un manque de confiance dans les compétences techniques des docteurs, puisque les compétences des docteurs sont tout à fait reconnues. C'est un manque de confiance dans une sorte de compétences sociales des docteurs, trop formatées par l'université, pas assez proches d'un monde appliqué, pas venant du même monde que le monde des grandes écoles dans lesquelles on connaît un tout petit peu qui sont ces gens-là. Et effectivement, c'est d'autant plus dramatique que ce n'est pas la qualité de leur formation qui est mise en cause, mais finalement ce qu'ils sont.
Mais il y a tout de même un problème avec le doctorat en France. Je veux dire, c'est une particularité très française. Regardez, alors c'est le sempiternel exemple du voisin allemand. Ben, la chancelière allemande est docteur en chimie. En Allemagne, le docteur, c'est extrêmement bien représenté, extrêmement bien réparti, ventilé dans toutes les couches de la société et à des hauts postes et avec des carrières tout à fait brillantes et bien rémunérées. Quel est le problème ? Il y a un problème avec le statut du doctorat en France, selon vous, Gabriel Zimmermann ?
Il y a un problème avec le statut du doctorat qui, basiquement, est très utile à une personne en France si elle veut continuer dans la recherche. En fait, techniquement, c'est un diplôme qui est très valorisable si on est dans la recherche. En dehors de ça, c'est un diplôme qui n'a pas forcément de valeur, qui peut parfois nous desservir dans la recherche d'emploi. On est très souvent perçu comme étant surdiplômé et finalement être des personnes qui peut-être vont avoir des prétentions de salariales trop hautes. On peut être perçu comme ça dans notre recherche d'emploi.
Michel Artin.
Oui, moi je voudrais apporter une note un peu...
Un peu positive,
oui.
Un peu d'optimisme.
Un peu d'optimiste du côté des maths appliquées, des mathématiques appliquées, parce que, par exemple, la récente enquête à Miest de l'Agence pour les mathématiques dans leurs interfaces avec les entreprises et la société sur les docteurs 2015 a montré que 88% ont un emploi au printemps 2016 et que là-dessus, attendez, je recherche mes chiffres, 83% sont satisfaits de leur situation professionnelle pour ceux qui sont en entreprise, mais il y en a beaucoup qui sont en entreprise, beaucoup qui travaillent à l'international. Et la pression internationale fait que les doctorats sont de plus en plus reconnus, parce qu'ils sont davantage reconnus à l'étranger. Donc quelqu'un qui travaille à l'international, son doctorat est plus facilement reconnu.
Mais alors,
et 78% disent que c'est en relation avec leur projet professionnel initial. Bien sûr, pour les chercheurs qui font une thèse en mathématiques fondamentales,
voilà.
c'est pas le cas pour l'instant.
Exactement, vous avez utilisé ce mot, Agnès Van Zanten l'a utilisé juste avant, venez de le dire, mathématiques appliquées.
Et
là, on est en plein dans le cœur du problème. Aujourd'hui, évidemment, on sait qu'il y a une promotion indiscutable aux sciences appliquées. Et aujourd'hui, se pose la question, Sébastien Carassou, par exemple, l'a évoqué hors antenne, on a pu en parler avec lui, et beaucoup de jeunes chercheurs que nous recevons ici tous les mercredis qui font de la recherche fondamentale nous le disent. Aujourd'hui, la recherche fondamentale, c'est exactement là où le bât blesse, Agnès Van Zanten.
Oui,
c'est très compliqué.
Je déplore toujours, même dans mon domaine des sciences humaines et sociales, il existe une procédure qui est par exemple celle des contrats chiffres et j'incite mes étudiants à aller chercher des contrats et on voit énormément d'institutions qui ne connaissent même pas l'existence de ceux-là, qui sont extrêmement surpris et qui ne voient pas du tout qu'est-ce qu'ils pourraient proposer comme type de contrat à des docteurs. Et donc, on passe beaucoup de temps à leur expliquer le système, à leur dire qu'est-ce que pourrait faire ce type de personne. Et effectivement, il y a en France une séparation entre fondamental et appliqué qui ne vient pas que de la société, qui vient aussi de la façon dont l'université s'est construite un peu à l'abri de la société. Et donc, effectivement, une difficulté aussi aux universitaires de parler un certain type de langage sans avoir l'impression de se vendre.
Et un autre mot pour conclure, et il faudrait faire 5 émissions consacrées à l'enseignement des sciences parce qu'on voit qu'on aborde un certain nombre de sujets. On n'a pas parlé des écoles d'ingénieurs, par exemple, et de la différence aujourd'hui de traitement entre des élèves qui sortent des écoles d'ingénieurs qui sont hyper diplômantes avec un taux de chômage très très faible à la sortie des écoles par rapport aux universités une fois de plus. Mais j'aimerais qu'on dise un autre mot puisque vous l'avez évoqué, Michel Lartigue, c'est celui de l'étranger, de la fuite des cerveaux. Et c'est particulièrement vrai et notamment en sciences fondamentales, parce qu'il n'y a pas d'application aujourd'hui pour les jeunes doctorants qui sortent avec une thèse de sciences fondamentales sous le bras. On voit beaucoup de jeunes chercheurs français qui partent s'exiler, qui au Royaume-Uni, qui aux États-Unis avant la... Enfin, non, bon, maintenant, c'est un peu différent. Il y a une nouvelle présidence qui complique les choses. Mais qui au Canada, qui même en Allemagne, le temps de commencer sa carrière, de se lancer, de publier, et qui finissent par revenir en France 10 ans après, quand ils ont envie, et encore quand ils reviennent, quand ils ont envie d'être un peu plus tranquilles et de pouvoir construire une vie en général avec le modèle français social tel qu'on le connaît ici et qui assure en général une vie un peu plus confortable que dans les autres pays.
Par rapport à ce que vous dites, je voudrais quand même souligner que le statut de passer par un certain nombre de post-docs après sa thèse n'est pas réservé aux chercheurs français, loin de là. Ce qu'il y a eu en France, et beaucoup de chercheurs, en particulier en mathématiques, le soulignent, c'est la possibilité qu'on a eue jusqu'à présent, ce qu'ont eu un certain nombre de chercheurs, d'être recrutés avec des postes permanents, que ce soit au CNRS, que ce soit à l'université, assez tôt. Bien sûr, pas tous. Tous les chercheurs, pas tous les doctorants. Mais il est évident que dans la plupart des pays aujourd'hui, après une thèse, on est pris dans ce système de précarité, post-doc, et que l'obtention d'un poste permanent est quelque chose qui ne se fait qu'au bout d'un nombre d'années assez important. Et la France, effectivement, n'échappe pas. Et en particulier en Allemagne. Donc, il ne faut pas quand même présenter les autres pays non plus comme le refuge par rapport à cette précarité. En fait, les chercheurs français, pour muscler leur CV, vont effectivement faire des doctorats, des post-docs à l'étranger.
Pour conclure, il nous reste quelques minutes, faire un tour de table, peut-être sur cette question-là, Agnès Van Zanten, quelle serait la mesure à prendre pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes docteurs, et notamment, puisque c'est là que le bal blesse le plus, des jeunes docteurs en sciences fondamentales.
Je ne dirais pas qu'il y a une mesure. Il y a effectivement à créer plus d'emplois publics dans la recherche, effectivement, mais également à développer beaucoup plus que ce n'est le cas actuellement, la recherche-développement dans les entreprises, avec effectivement des liens avec l'université beaucoup plus précoces, pas seulement à la sortie, pour l'insertion professionnelle, mais dès le départ, avec la possibilité pour des jeunes en formation de travailler en contrat dans les entreprises, etc., ce qui se fait encore très, très peu, qui est beaucoup plus le modèle des écoles d'ingénieurs que vous évoquiez, dans lesquelles, effectivement, grâce au stage et grâce à tout un ensemble de démarches, il y a beaucoup plus des liens.
Vous voyez, je rebondis, il y a un auditeur sur Twitter qui vient de nous dire que les contrats chiffres sont source de tension pour les doctorants quand exigences des industriels et exigences académiques divergent.
Totalement, et effectivement, bon, c'est un peu inhérent au système lui-même de ces contrats, mais plus ils seront répondus, plus on mettra sur la table un certain nombre des normes qui doivent régir le fonctionnement de ces contrats, plus ça marchera facilement. C'est bien sûr toujours des mondes qu'il faut chercher à concilier, donc on ne peut pas imaginer que ça sera le monde idéal, mais on peut aller beaucoup mieux que ce n'est le cas maintenant, ça c'est sûr.
Michel Artigat, un mot, une idée pour améliorer à quelques niveaux du cursus, de l'échelle ou de la formation que ce soit, l'enseignement des sciences en France.
Un mot pour améliorer l'enseignement des sciences en France.
Si notre futur président ou notre future présidente vous écoute, quelle est la première mesure à prendre pour améliorer l'enseignement des sciences en France?
Pour moi, ce qui compte effectivement le plus aujourd'hui, ce ne sont pas les programmes, c'est vraiment la formation des enseignants. La formation initiale au niveau de l'enseignement primaire et la formation continue, et une formation continue qui prenne en compte les acquis de la recherche.
Eh bien, espérons que vous soyez entendus. Pour conclure, Gabriel Zimmermann, à votre avis, la mesure phare à prendre pour améliorer l'enseignement des sciences en France?
J'abonde totalement dans le sens de Michel. Je pense que c'est faire tomber les cloisons, qui est peut-être le mot sur ça. Décloisonner la recherche et l'éducation. Et cette formation, elle doit se nourrir de ces jeunes docteurs qui ont aussi leurs choses à apporter dans l'affaire. On peut mettre en contact des enseignants avec des scientifiques et notamment avec des jeunes docteurs. Et il y a des accompagnements possibles, notamment au travers de ce qui s'appelle la STEP, qui est un espèce de parrainage d'un scientifique qui est souvent un jeune docteur qui va aller accompagner un enseignant. Donc il faut faire tomber ces cloisons, rapprocher ces mondes-là pour faire aussi tomber les stéréotypes qui font aussi beaucoup de mal.
Merci beaucoup à toutes les trois, Agnès Van Zanten, Gabriel Zimmermann, Michel Artigue. Je rappelle, comme chaque jour, semaine spéciale pour la Marche des Sciences qui aura lieu le samedi 22 avril. On va vous mettre sur le fil Twitter de l'émission le lien vers les différents parcours dans les différentes villes de France. À Paris, le départ est donné devant le Jardin des Plantes près de la gare d'Austerlitz. Et puis, puisqu'on a parlé de formation initiale, rappelons que la méthode scientifique recherche toujours des lycées pour le lundi 15 mai, puisque le lundi 15 mai, nous allons faire enregistrer une émission et une autre émission en direct spéciale consacrée aux révisions des matières scientifiques du baccalauréat. Il ne reste plus énormément de place, donc si vous avez vous-même, si vous êtes enseignant, si vous êtes lycéen, lycéenne, parent d'élève, envoyez-nous un mail à lamethode@radiofrance.com, lamethode@radiofrance.com pour inscrire votre classe et venir assister en direct aux émissions. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mathieu Lefrançois, Étienne, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontani à la technique et Raphaël Béziquian au droit d'auteur. Et demain, suite donc de notre semaine spéciale autour de la marche pour les sciences de samedi, il sera demain question de la dimension historique du divorce entre la science et les citoyens. À partir de quand la science est-elle devenue une source non plus de progrès mais d'inquiétude? Quels sont les événements qui ont façonné le scepticisme et pourquoi la figure du scientifique est-elle aujourd'hui devenue parfois celle de l'ennemi? Réponse demain. Dans tout de suite un indice chez vous, il peut y avoir un lien entre notre émission de demain et la série documentaire consacrée au nationalisme et au populisme en Europe avec Perrine Kervran, Alain Lefkowitz et Doria Zénine. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.